Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table, comme fait culturel majeur et comme enjeu global, une émission en partenariat avec la plateforme des cultures du goût, Alimentation Générale. Cher Pierre Hiverna, bonjour.
Bonjour Caroline.
Chaque dimanche, en fin d'émission, vous nous proposez la chronique La cerise sur le gâteau. Nous sommes le 23 décembre. Mon petit doigt me dit qu'on va parler de Noël.
Oui, en cette veillée d'armes, je vais vous parler de la dinde de Noël.
À tout à l'heure, 12h25-26. Bonjour Stéphanie Villeneuve.
Bonjour Caroline.
C'est vous aujourd'hui qui nous proposez la Madeleine II, soit le souvenir gustatif d'une personnalité aujourd'hui.
Nous allons parler de Rachida Brakni.
La Madeleine II, c'est aux alentours de 12h15. Et pour notre plat du jour, en cette veille de réveillon, place à la gourmandise, au sucré, on y a bien droit une fois dans l'année quand même, aux mignardises, aux friandises, aux douceurs, aux gâteries, en un mot, aux pâtisseries, en compagnie, excusez du peu, de la meilleure pâtissière du monde.
Tout a commencé avec une pomme d'amour rapportée par le chef Frédéric Anton.
Je me souviens qu'il est venu un jour avec cette pomme de la fête foraine et puis c'était très drôle parce que c'est des choses qui nous parlaient à tous les deux et puis moi j'avais qu'une seule chose, c'était de la manger, alors qu'il voulait vraiment qu'on travaille dessus. Ça a été hyper compliqué parce qu'il fallait faire une enveloppe en sucre. Le sucre soufflé, c'était une technique que je maîtrisais pas. J'étais pas équipée pour. Donc il a fallu ruser un petit peu. Donc on a bien travaillé un ou deux mois dessus. Et après, l'intérieur de la pomme, on l'a décliné en mousse au cidre. On a mis des brisures de pâte, on a mis du sucre pétillant, on a mêlé un petit peu de caramba pour rappeler tout ça, la fête foraine et les goûts d'enfance. Ça, c'est de la glace au caramba. Et ça, c'est la petite mousse à la veine.
Résultat, une pomme brillante comme une boule de Noël qu'on a le droit de casser.
La pomme est un dessert hyper régressif. Et c'est assumé en plus.
Bonjour Christelle Brua.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission Les Bonnes Choses. Vous êtes chef pâtissière au Précatelan dans le bois de Boulogne. C'est un restaurant 3 étoiles au Michelin. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est la recette de votre dessert signature. Une sorte de pomme verte en sucre soufflé, avec une glace au carambar, une mousse de vanille, du sucre pétillant, du cidre. Racontez-nous comment vous avez trouvé cette idée.
Mais en fait, on est parti sur l'idée des fêtes foraines. Et c'était le dessert d'enfance, qui était compliqué à manger. On s'en mettait plein les doigts, et puis on n'arrivait pas forcément à le finir. Et on a voulu retravailler ce dessert rond, et en faire le sublimer en fait, et en faire un très très beau dessert de restaurant.
Régressif, c'est assumé, c'est ça qui vous plaît, c'est l'enfance, c'est le souvenir de l'enfance nécessairement, il faut de la mémoire dans la cuisine, et en particulier quand elle est sucrée.
C'est ça, c'était recréer les émotions qu'on avait pu vivre pendant nos jeunes années, et du coup on a retravaillé vraiment avec le goût du carambar, le cidre, ce sucre pétillant aussi qu'on mangeait quand on était petit avec les sucettes, c'est tout ça qui forme la pomme.
Alors Christelle Brua, je disais juste avant d'entendre comment vous fabriquez cette pomme verte en sucre soufflé que vous êtes meilleure pâtissière au monde. Pourquoi je dis ça? Bien parce que vous venez de remporter le prix donné par une association qui regroupe 174 établissements exceptionnels, une association qui s'intitule Les Grandes Tables du Monde. Vous venez de remporter ce prix de meilleure pâtissière de restaurant du monde. Alors c'est important de dire meilleure pâtissière de restaurant. Il y a une différence entre pâtissière d'un restaurant et pâtissière tout court?
On parle plus pâtissière restaurant et pâtissier boutique. C'est deux métiers qui sont à la fois similaires, mais qui sont aussi très très différents. Nous, les pâtissiers restaurants, on travaille plus dans l'éphémère, dans les créations qui sont destinées à être dégustées tout de suite, alors qu'une boutique, c'est plus sur la durée.
Alors ça, c'était juste pour la petite parenthèse pour bien comprendre. Oui. Mais donc, félicitations pour
Merci
ce prix
beaucoup.
Formidable, championne du monde de pâtisserie. Il se trouve que vous êtes la première femme à avoir emporté ce titre. C'est quoi pour vous? C'est une reconnaissance? C'est l'aboutissement? Alors, j'espère pas l'aboutissement au sens où votre carrière ne fait que commencer, bien
c'est
sûr.
Ça.
Mais c'est un couronnement, un premier couronnement, même pas un premier parce qu'il y en a eu déjà d'autres, mais une reconnaissance particulière parce que c'est 174 établissements exceptionnels qui vous ont reconnu meilleure pâtissière au monde.
Le prix a été décerné déjà par la profession, donc ça a une impact encore plus forte pour moi. Et après, ça récompense. On travaille depuis 16 ans avec Frédéric Anton au Précatelan, et c'est une très très belle histoire qui s'est construite. C'est un vrai duo, et puis ça récompense toutes ces années de complicité. Et après, c'est aussi bien sûr le travail de l'équipe qui fournit un travail constant toute la journée et pendant toutes ces années. Et bien sûr, ça récompense tout le monde en fait. C'est pas seulement ma récompense à moi.
Est-ce que ça signifie plus de travail, plus de pression depuis que vous avez eu ce prix?
on travaille de la même façon. En fait, on n'a pas du tout changé. Bien sûr, il y a eu tourbillon médiatique, plein de choses qui se sont passées, mais on continue à faire notre travail toujours à fond, tous les jours, et on prend toujours autant de plaisir.
Christelle Bruat, tous les chefs, ou presque, disent qu'il n'y a rien de plus difficile que le sucré, que la pâtisserie. Vous êtes d'accord avec ça ?
J'ai une formation de cuisine pâtisserie, j'ai appris sur le tas. Après, la pâtisserie, c'est vrai que c'est rigoureux, il faut tout peser, c'est millimétré, il faut vérifier les cuissons. Mais les deux métiers sont très carrés.
Les deux métiers, vous avez la cuisine et la pâtisserie.
Et la pâtisserie,
c'est la rigueur, c'est la discipline.
Ça, la discipline.
Là, les grands chefs de la profession ont récompensé votre grande précision et une esthétique raffinée. Vous diriez que c'est la principale qualité d'une chef pâtissière, la précision?
C'est effectivement ça, oui. Il faut être très très précis, rigoureux. Et après, on fait les choses qu'on aime, on les fait en fonction de plus dans l'instinct. Moi, je fais des desserts de cuisinier, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Mais c'est toujours.
C'est quoi? Ça veut dire quoi, faire un dessert de cuisinier?
Les desserts c'est ce que je disais avant, les desserts de boutique, c'est plus sur la durée qu'on va les déguster tout au long de la journée. Moi, un dessert de cuisinier, il faut que ce soit pratique, qu'on puisse facilement les envoyer aux clients. Et il faut qu'on aille à l'essentiel, en fait.
Est-ce que vous ne trouvez pas frustrant, quand vous dites justement dessert de cuisinier et que vous travaillez dans un restaurant, d'arriver au bout de X plats? Parce qu'en plus, on est dans un restaurant 3 étoiles, donc ça veut dire que le repas a été copieux, puis il faut encore faire un dessert. Est-ce que ce n'est pas très frustrant? Parce que, est-ce que vous ne vous dites pas, je ne peux pas faire tout ce que j'aimerais faire si on ne mangeait que des desserts, dans la mesure où il faut que j'arrive justement en accord avec la complicité du chef, hein, de Frédéric Anton, mais avec un accord particulier, une harmonie particulière, j'élimine le chocolat, j'élimine ceci, j'élimine cela, parce que sinon les convives vont en avoir trop.
Mais pas du tout, j'élimine rien du tout. Et quand on crée une carte avec le chef, c'est je comprends sa cuisine, je goûte sa cuisine, et en fonction de ça, on arrive à s'accorder et à construire des desserts qui sont tout dans la lignée du repas que les clients viennent de déguster. Et c'est très très rare où le moment où des personnes disent comme quoi elles ne veulent pas le dessert à la fin.
Ça vous est arrivé quand même?
Ça arrive, mais c'est vraiment rare.
Christelle Bruat, vous disiez justement que vous travailliez depuis 16 ans en duo avec le chef Frédéric Anton. Il se trouve que quand vous avez commencé toute jeune à travailler, vous lui avez téléphoné, vous lui avez écrit, vous aviez en fait très envie de travailler avec lui spécifiquement au Précatelan. Pour quelle raison lui spécifiquement?
En fait, je suis quelqu'un de très têtu et de très déterminé. Et
quand ça vous réussit, hein?
Il paraît. Et quand j'ai décidé de faire quelque chose, je me donne les moyens et je fais tout pour y arriver. Et là, j'avais décidé, je l'ai rencontré en 2000, à une réception où je travaillais avec mon ancien patron. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, je vais aller travailler chez lui. Donc, je suis tombée un jour sur un Turiès. Après, il y avait peut-être quelques signes aussi qui arrivaient. Et je suis tombée sur l'album du Turiès dans un magazine qui expliquait son parcours, sa façon de voir les choses, sa façon de créer des cartes et la façon dont il évoluait avec son équipe. Et je me suis dit, c'est là que je veux travailler nulle part ailleurs.
Eh bien, le chef Frédéric Anton, précisément, on l'écoute.
J'ai eu un entretien avec elle, elle est venue se présenter, j'ai discuté, je voulais savoir exactement ce qu'elle voulait faire. Et là, il s'est passé une chose assez folle. Dès le lendemain, un coup de téléphone, deux coups de téléphone, trois coups de téléphone, et ainsi de suite. Pendant plusieurs jours, je me dis, mais mince, qu'est-ce qu'elle me veut? À un moment, j'ai pris le téléphone, je lui dis, ok, mais tu commences demain matin. Je ramène mon petit grain de sel, simplement, c'est que comment il faut qu'il y ait une continuité entre la cuisine et la pâtisserie, donc ce qui est très important.
Christelle Bruat, est-ce que la collaboration, qui donc date maintenant d'une quinzaine d'années, disons, est-ce que la collaboration que vous avez avec lui était celle que vous imaginiez? Est-ce que vous projetiez à ce moment-là une collaboration telle qu'elle se passe au quotidien?
Mais c'était très drôle, on a fait un entretien ensemble et on s'est parlé de façon très détendue. Et en fait, je me suis dit, en fait, on est vraiment complémentaires, il faut vraiment que je travaille ici. Et ce qui est génial, c'est que chaque jour, c'est pas du tout le même jour qu'on a passé auparavant. C'est que l'histoire continue à se construire et que chaque jour j'apprends de nouvelles choses et chaque jour j'évolue dans cette maison.
Est-ce qu'il vous arrive de pas être d'accord avec lui?
Bien sûr.
Nécessairement, j'imagine, au quotidien depuis 16 ans.
Bien sûr, on n'est pas toujours d'accord, mais Au final, on s'entend toujours très très bien. Si jamais on peut se fâcher ou quoi que ce soit, c'est quelque chose. Ça dure peut-être 3 minutes, hein, mais au bout de 3 minutes, c'est oublié et puis on continue d'avancer.
Christelle Breuil, il se trouve que vous ne souhaitiez pas, je crois, devenir pâtissière à la base, mais plutôt styliste.
Oui, styliste.
Puis bon, vous avez fait un CAP et un BEP en cuisine, mais pas une formation spécifique de pâtissière. Comment vous êtes-vous retrouvée là, au final ?
Je voulais être styliste déjà. Après, j'ai fait des diplômes en cuisine. Mon père m'a dit, déjà, passe tes diplômes en cuisine et après, on verra. Et dans le restaurant à Lansbourg où je travaillais, j'étais apprentie en cuisine. Il y avait la maman qui faisait des gâteaux. Elle s'occupait de la pâtisserie. Moi, j'avais pour habitude de me lever beaucoup plus tôt que les autres le matin et d'aller observer la façon dont elle travaillait. Et donc, le chef a vu un petit peu mon petit jeu tous les matins. Et un jour, il m'a dit, tiens, vu que t'es tellement intéressée par la pâtisserie, va en pâtisserie. Moi, j'étais super heureuse. Donc, du coup, je l'aidais beaucoup. Je finissais les services avec elle. Et au bout d'un moment, ça a été mon poste.
Est-ce que vous retrouvez dans la pâtisserie quelque chose que vous aimiez particulièrement dans le stylisme ? Est-ce qu'il y a un lien entre le stylisme et la pâtisserie ?
Je me suis rendu compte en faisant de la pâtisserie qu'on pouvait très bien créer à partir d'un morceau de tissu et faire la même chose à partir d'une pomme ou d'un fruit ou de n'importe quoi. C'est le côté création qui m'a beaucoup, beaucoup attirée.
Il faut que ce soit beau, un dessert que vous proposez.
Ah oui, je pense que c'est la première chose qu'on voit.
Ah, c'est la première chose.
Oui.
Parce que c'est d'abord les yeux, avant de goûter.
D'abord les yeux, après il y a les odeurs, et puis bien sûr après le goût.
On retrouve votre goût pour le dessin d'ailleurs et les formes dans les desserts que vous faites, pas seulement dans la pomme soufflée, dans les autres desserts. Est-ce que vous avez très envie de créer, toujours d'innover, ou est-ce que vous plaisent aussi les travaux que vous pouvez effectuer sur des desserts très grands classiques, le baba au rhum, la religieuse au chocolat?
Je retravaille beaucoup les grands classiques. J'ai pas la prétention d'inventer de nouvelles choses, mais j'aime beaucoup réadapter des desserts peut-être un peu oubliés et de les remettre un petit peu au goût du jour.
Comme
J'ai refait le baba, j'ai refait le Saint-Honoré, le Paris-Brest, le millefeuille. Je pense avoir essayé de refaire à notre goût un petit peu tous les desserts.
Et ça veut dire quoi, refaire un dessert oublié alors ?
Alors,
il y a les mêmes ingrédients qui sont présentés autrement ? Il y a d'autres ingrédients ?
Alors là, on a travaillé sur un café liégeois. Alors, quand on dit café liégeois, on va me dire « Non mais attends, ton truc, c'est dans des petits restos qu'on mange ça. » Moi, j'adore le café liégeois. Donc du coup, j'ai repris tous les ingrédients. J'ai refait un café liégeois tel qu'il est servi dans un restaurant traditionnel. Et j'ai tout décomposé. Et en fait, je l'ai refait. J'ai allégé la glace, la même chose pour la chantilly. Et je l'ai reconstruit. Et en fait, c'est un dessert aujourd'hui qu'on sert au menu déjeuner.
Le savarin aux pommes, le chenonceau au rhum, le délice à la noix, la galette des rois, non. La tarte aux abricots, le soufflé au pruneau, le beignet de compote, le biscuit de Charlotte, non. Ah, le cake d'amour.
Vous êtes aussi une chef, c'est-à-dire une chef cuisinière, chef pâtissière plus exactement, mais vous êtes aussi une chef, c'est-à-dire que vous avez une équipe. Vous disiez d'ailleurs que cette récompense ultime hein, de meilleure pâtissière au monde, meilleure pâtissière de restaurant au monde, Christelle Bruat, c'était aussi une récompense qui venait à votre équipe. Vous gérez aujourd'hui une équipe de 9 personnes, je crois. Vous avez choisi 7 filles et 2 garçons.
C'est ça.
Il y a une prédilection particulière pour les filles, c'est une revendication féministe.
Pas
vous êtes
tout.
Une femme, il faut que les filles existent aussi en cuisine, c'est quoi
pas
ça ?
Pas du tout. J'ai pas de revendication féministe, mais je suis vraiment très très mauvaise cliente là-dessus. C'est juste que je reçois énormément de CV de garçons, de filles, et que je reçois tout le monde en fait. Et en fait, ça se passe au feeling. Je vais regarder bien sûr le parcours qui a été fait, Et puis, et en fonction de ce qui se passe pendant l'entretien, je regarde déjà s'il peut y avoir une alchimie avec moi. Et après, bien sûr, si ça peut, ça peut coller avec l'équipe. C'est comme ça que je recrute.
Décrivez-nous une journée dans la vie de Christelle Bruat, du matin au précathlon au soir.
Ah, déjà, je dépose mon fils à l'école. Après, j'arrive au travail. Je discute un petit peu avec le chef pour voir la journée. Et ensuite, je descends dans le labo et je commence à travailler avec mes pâtissiers.
Mais discuter avec le chef pour voir la journée, ça veut dire que à ce moment-là, c'est là que vous échangez, c'est là que se fait la collaboration,
on
la complicité.
On échange toute la journée. Je suis un peu une petite sensue et
sur
on
les sur le menu de la journée, c'est-à-dire le menu du midi, le menu du soir.
Oui, c'est le menu du midi, le menu du soir.
C'est là que vous vous mettez en accord avec lui.
Exactement. Et puis après, on a certains rendez-vous chacun de notre côté, donc on fait en sorte que si moi je suis absente, il est présent dans le restaurant et l'inverse fonctionne aussi. Et en fonction de ça, on s'accorde. Ensuite, je descends dans le labo.
C'est quoi le labo ?
Le labo, c'est l'endroit où on fait les cuissons, les pâtisseries, où tout s'organise en fait. Et après, on monte au service. Donc, on déjeune d'abord avec l'équipe. On monte au service, on fait le service. L'après-midi, petite pause et je reviens le soir et je recommence.
Allez, puisque vous parlez d'une petite pause, nous aussi, on va faire une petite pause. C'est l'heure de la Madeleine dans Les Bonnes Choses.
Voilà. Permettez.
Vous n'avez pas terminé votre dîner.
J'ai plus faim, c'était très bon.
Il faut finir, tout finir.
Il faut tout finir jusqu'au dessert. Stéphanie Villeneuve, vous nous parliez donc d'une actrice que vous avez rencontrée.
Oui, Rachida Brakni qui était de passage dans les Matins du Samedi il y a quelques semaines. Alors on en a profité pour lui tendre un micro et lui demander quelle était sa Madeleine.
Je peux me contenter d'un éclair au café, mais la religieuse au café, c'est le summum, d'ailleurs dans sa forme. Il y a cette deuxième chou qu'on pourra appeler, il y a un gros chou, un moyen chou, et ça se termine par ce glaçage au café, donc c'est vraiment le summum de la gourmandise, et c'est vraiment mon péché mignon, ma madeleine, c'est ma mauvaise conscience, parfois après l'avoir mangé, mais en même temps c'est une quête. C'est une quête absolue, la religieuse au café. Je suis capable de parcourir des kilomètres pour accéder à ce Graal. Donc voilà, mais c'est quelque chose que je mange depuis mon enfance, qui est lié un peu au dimanche. Quand le dimanche matin, on faisait le marché avec ma mère, on terminait évidemment par la boulangerie. On allait acheter notre pain et puis quelques gâteaux. Par ailleurs, plus tard, pour payer mes études, je travaillais dans une boulangerie et je travaillais le dimanche matin. Et quand je terminais, je ne repartais jamais sans ma religieuse au café. La religieuse parfaite, c'est retrouver une forme de croquant, de quelque chose qu'on sent sous la dent qui se brise pour arriver à cette pâte à choux au café. Et donc la douceur, l'onctuosité, et qui nous amène tranquillement à ce glaçage, parce que le glaçage, finalement, c'est celui qui reste le plus longtemps en bouche. Donc on finit sur cette note-là. Et donc je trouve qu'il y a, voilà, il y a trois étages dans la religieuse. Il y a trois étages... Quand on la voit visuellement, mais aussi au goût, il y a trois étages. Voilà, le croquant, l'onctuosité de la pâte à choux, et enfin, pour finir, ce glaçage qui vous reste en bouche. Et voilà, elle continue de m'accompagner, cette religieuse, ou cet éclair d'ailleurs, et à tel point que même, en étant enceinte, qu'est-ce que j'en ai mangé ? J'en ai mangé énormément, et c'est finalement quelque chose qui se transmet, puisque mes enfants adorent l'éclair au café et la religieuse au café.
Alors Christelle Bruat, il y a effectivement trois étages dans la religieuse, le croquant, l'onctuosité, le glaçage.
Ouais, alors c'est moi qui vais les chercher, qui vais les chercher à la boulangerie. Quand le moment où j'arrive, il n'y en aura plus qu'un seul. Hein. Parce que j'aurais pris les petits choux dessus.
Ah, c'est un peu comme le café liégeois. Vous êtes une fan de choux.
J'adore les desserts au café, j'adore ça.
Ah, c'est le café. C'est plus le café que les choux, en l'occurrence. La religieuse au café, la religieuse au chocolat, vous l'avez retravaillée comme vous avez retravaillé certains desserts.
On l'a fait, et en plus, on en a fait de sublimes coques en sucre. Et j'ai fait ça de trois couleurs différentes, telles des petits soldats. Et à l'intérieur, on a retravaillé tous les ingrédients aussi qu'il y avait sur cette religieuse. Sauf que moi, j'ai poché des tout petits choux, des minuscules petits choux que j'ai fait caraméliser. Et en fait, je m'en suis servi comme si c'était des espèces de petites cacahuètes. Donc j'ai le goût de la pâte à choux, j'ai le croustillant, mais ça me sert de mâche en fait dans mon dessert.
Vous disiez, Christelle Bruat, tout à l'heure, que vous aimiez particulièrement le café liégeois. Donc maintenant, on découvre que vous aimez aussi les religieuses ou les éclairs au café, donc tout ce qui touche au café. Malgré tout, est-ce que le dessert que vous préférez est aussi celui que vous préférez faire en cuisine, travailler en pâtisserie?
Ce qui peut sembler un peu bizarre, c'est que je ne rechigne pas à faire un dessert. J'adore toujours la pomme, ça fait 16 ans qu'on l'a. Je prends toujours autant de plaisir.
Tous les jours.
On en souffle tous les jours, on en sert tous les jours. Ça représente 2/3 des desserts qu'on fait. Et je prends toujours autant de plaisir à la souffler, à la faire et à la manger.
Rachida Brakni disait que ça se transmettait, qu'aujourd'hui ses enfants aimaient comme elle la religieuse au café. Est-ce que c'est une affaire de famille pour vous, la pâtisserie, dans la mesure où c'est né chez vous d'une envie de retrouver un goût d'enfance, d'être créateur d'émotions qui ressurgissent? C'est vraiment comme des madeleines, en particulier le sucré, et on le voit bien avec votre pomme soufflée en particulier. Est-ce que c'est une affaire de famille au sens où est-ce que vous le transmettez, vous avez le souci de le transmettre aussi?
Moi, j'ai un petit garçon qui a 6 ans et qui est très gourmand, et je lui apprends justement les bonnes choses, les bons produits. Et c'est vrai que on prend énormément de plaisir, lui et moi, à manger justement des desserts qui sont très très simples, cet éclair et j'ai vraiment très très à cœur de lui transmettre tout ça. Et quand on l'écoute, on lui demande ce qu'il veut faire comme métier plus tard, il répond pâtissier.
Et comment ça se transmet, c'est-à-dire d'un point de vue de la technique, du savoir-faire, quand vous travaillez ou retravaillez des desserts qui sont ancestraux, qui sont traditionnels ou qui sont classiques, différemment, est-ce que vous apprenez à vos enfants ou à votre enfant à faire comme on le faisait autrefois ou comme Christelle Bruat le fait aujourd'hui?
Non, c'est plus comme on le faisait autrefois. Ça va être on fait beaucoup de chouquettes avec mon fils à la maison et c'est tel qu'on le faisait autrefois, mais après, beaucoup plus simple.
Christelle Bruat, j'ai à côté de moi un livre qui vient d'être réédité, qui s'intitule « La très belle et très exquise histoire des gâteaux et des friandises ». Magnifique titre, déjà.
Oui, Maglone Sama.
De Maglone Toussaint Sama, avec une préface de Pascal Horry, puisque ce livre est un livre ancien, que c'est une nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée. Et il se trouve que vous adorez ce livre.
C'est mon livre préféré.
Qu'est-ce que c'est que ce livre?
C'est un livre qui... c'est un des premiers livres que j'ai eu, que je me suis offert. Et j'ai l'ancienne édition. Je trouve que ce livre est très réconfortant. C'est beaucoup de douceur, tout est très très bien expliqué. On nous explique vraiment des desserts très très anciens. Et moi, je prends toujours autant de plaisir à le lire, à le feuilleter. Et je le recommande. Après, c'est très très bien qu'il soit réédité.
C'est une histoire, hein. C'est une histoire de gâteau.
C'est très très beau.
Mais avec des recettes également.
Ouais.
Parlez-nous de Maglone Toussaint Sama.
Alors elle a fait beaucoup de livres en rapport justement à la pâtisserie. C'est vraiment, moi j'adore cet auteur, c'est plein de souvenirs d'enfance, de réconfort.
Ah bah comme c'est du réconfort et que vous aviez une ancienne version, que la nouvelle édition vient de sortir et qu'on est au moment de Noël, je résiste pas au plaisir de vous l'offrir.
Merci.
Petit cadeau, vous restez avec nous malgré tout pour écouter la cerise sur le gâteau qui n'a jamais aussi bien porté son nom, Pierre Hiverna. Alors Pierre, on revient avant le dessert dans ce plat salé, mais on reste dans la thématique du jour, à savoir Noël, le réveillon.
Absolument, Caroline. N'écoutant que mon penchant pour l'actualité la plus chaude et ma sensibilité au bien-être animal, je me suis d'abord intéressé au meurtre prémédité de près de 3 millions de sympathiques gallinacés qui vont tous finir définitivement leur existence demain soir vers minuit sans pour autant avoir manifesté le moindre attachement à la chrétienté. Mais pourquoi donc la dinde fait-elle ainsi massivement les frais de nos agapes de Noël, elle qui n'avait rien demandé du temps où elle vivait peinarde dans les pampas du Mexique? Eh oui, parce que ceux qui croiraient encore à une tradition bien ancrée de l'identité culinaire française vont en être un peu pour leurs frais. Car figurez-vous que la dinde aurait très bien pu s'appeler la d'Amérique, si le GPS de Christophe Colomb ne s'était pas emmêlé les sextants. Sa bande d'aventuriers, se croyant en Inde, ramena en effet d'Amérique du Sud en 1548 un coq d'Inde, lequel devint un poulet d'Inde, qui subit alors une double transformation en accostant en Espagne, en changeant de sexe et en comprimant son appellation en dinde tout court. La première fois qu'une dinde est apparue sur une table en France serait, selon plusieurs historiens, plus de 20 ans plus tard, à l'occasion des noces du roi Charles IX avec Élisabeth d'Autriche, qui par ailleurs était loin d'en être une. Mais il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour que la dinde, animal encore rare et donc exotique, soit réservée à la célébration de fêtes importantes. Plus tard, on comprit surtout qu'elle présentait aussi l'avantage d'être plus grosse que le poulet et moins chère que l'oie. Bref, un animal prêt pour le marketing, facilement fabricable en mode intensif pour satisfaire les consommateurs des Trente Glorieuses en manque de signes extérieurs de richesse.
Sauf Pierre qu'aujourd'hui, la dinde est bien sérieusement concurrencée par le chapeau, non ?
Eh bien effectivement, Caroline, depuis quelques années, voilà que les assassinats massifs de volailles de Noël se portent sur cet animal d'origine casse-couille, un foutu capable avec sa voix de fossé de réveiller la moindre basse-cour et qui a su dès l'origine compenser son handicap en développant une masse musculaire dont la dinde est fort dépourvue. Non content de se la ramener côté pectoraux, il se la joue aussi côté ancrage historique puisqu'on trouve trace du chapon dans la Rome antique. Mais à vrai dire, il y a des différences beaucoup plus importantes que le goût, essentiellement dues au fait que l'on ne produit du chapon que pour Noël, donc peu. La réglementation de sa commercialisation est par ailleurs beaucoup plus encadrée. Le chapon doit en effet être bagué et porter un sceau d'identification avec la mention « chapon ». Vous devez également vérifier qu'il a les pattes bleues, la peau très lisse et qu'il a été nourri avec au moins 75% de céréales. Et contrairement à la dinde, le chapon doit grossir lentement, tranquillement, en se faisant les muscles, en gambadant, loisir inconnu de la dinde qui pour plus de 95% du cheptel est élevé en batterie. Le danger, évidemment, Caroline, c'est que pour toutes ces raisons, la consommation de chapon augmente encore et encore et qu'il soit, à terme, lui aussi, le dindon de la farce.
Merci Pierre Hiverna. Christelle Brua, dinde ou chapon ? Ou aucun des deux ?
J'ai fait une poularde cette année.
Vous faites une poularde ?
Oui.
Et du coup, en dessert, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, cette année, j'ai prévu des chouquettes avec une petite mousseline à la vanille.
À la maison ?
Oui.
Ou au restaurant ?
Non, à la maison.
À la maison, chouquette vanille. Mm-hmm. Vous nous donnez une recette ?
Alors, la mousseline vanille, c'est une crème pâtissière, mais on rajoute beaucoup de beurre et un petit peu de gélatine. Mais beaucoup de beurre.
Ça veut dire quoi, beaucoup de beurre ? C'est à peu près comme la
c'est
purée de
robichon ? C'est riche, c'est riche.
Mmh. Et comment on monte la mousseline ?
Alors, on la cuit tout simplement. Le lait, on le met à cuire sur le feu. Par-dessus, on le fait bien chauffer. On blanchit les jaunes avec le sucre. Et puis, on remue, on cuit ça comme une pâtissière. Et fin de cuisson, on rajoute le beurre et la gélatine ramollie.
Et les choux ? Quête ?
Chouquette, beaucoup de sucre en grain. Mais le gros sucre en grain. Et la cuisson, c'est un quart d'heure, 150 degrés.
Bon, on mettra tout ça sur le site. Si vous voulez bien nous l'envoyer, nous l'écrire, Christelle Brua. Merci beaucoup d'être venue dans ces bonnes choses.
Merci à vous.
Et bon réveillon à vous.
Merci à vous aussi.
Bonne fête.
Merci.
Les bonnes choses se poursuivent en réécoute en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Aigoui Chichkoyan, Natacha Triou, Alexandra Candy-Longuet pour la réalisation et notre technicien du jour, Pierrick Monsigny, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. D'excellentes fêtes de fin d'année également. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des Temps par Marc Weitzman.